Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui un monument dans l'histoire avec François Kerel. Athènes, son image, sont inséparables de ce monument sur le rocher sacré de l'Acropole, le Parthénon. De nos jours, l'édifice est couvert d'échafaudages, on le restaure, on le reconstitue, mais aucune réparation n'effacera les agressions qu'il a subies à travers les âges. D'autre part, les restaurations assidues du monument ne feront pas revenir les Grecs que nos sociétés acceptent de voir disparaître de notre horizon. Heureusement, l'ardeur des spécialistes est intacte, leurs travaux nous tiennent en alerte, et c'est ainsi que François Kerel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en archéologie grecque, publie début septembre le Parthénon, un monument dans l'histoire aux éditions Bartilla avec des dessins de Florence André, un ouvrage sur les multiples manières de regarder ce monument symbole hier et aujourd'hui. François Kerel, le voyageur, il faudrait presque dire le touriste aujourd'hui en visitant l'Acropole ou d'ailleurs le British Museum ou le Louvre qui conserve des fragments du Parthénon, cherche surtout, je pense, une émotion esthétique. Donc, vous les invitez à mettre leurs yeux dans les yeux des anciens Grecs pour partager un instant le regard que ceux-ci pouvaient porter sur le monument.
Oui, le monument que l'on voit maintenant, vous l'avez bien rappelé, c'est un monument reconstitué, c'est un monument en morceaux dans des musées. Sur place, c'est un monument sous échafaudage, c'est évidemment un monument marqué par l'histoire. Mais si l'on voit comment on peut appréhender ce monument en oubliant évidemment ces éléments qui quelquefois empêchent une émotion, il faut revenir sûrement à la fonction qui reste d'ailleurs en partie énigmatique du Parthénon. Un monument qui nous amène à prendre connaissance, à avoir une vision, peut-être même une révélation du sacré pour ces Athéniens qui, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, ont contribué, ont construit de leurs mains, en très peu de temps, un monument qui est devenu, comme vous l'avez dit, un symbole pour la civilisation grecque, un symbole d'une œuvre d'art qui, cependant, avait aussi une fonction immédiate au milieu du 5e siècle.
Parce que le Parthénon n'est pas né d'une volonté unanime. Il y a eu des adversaires qui se sont opposés à la construction. Pourquoi, au fond ?
L'histoire d'Athènes, vue de loin, évidemment, peut nous paraître une histoire paisible, un long fleuve tranquille, où l'on aurait atteint l'idéal, où l'on serait dans une Grèce telle que Raphaël peignait l'école d'Athènes, où l'on était loin des tribulations, des débats politiques. En fait, non. Bien évidemment, tout le monde sait que ce sont les Grecs qui ont inventé la politique. Le mot même de polis signifie la cité, et la politique, la vie politique, est indissociable pour un Athénien de sa condition de citoyen. Et de ce point de vue-là, c'est au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ qu'on peut dire que Athènes domine une grande partie de la Grèce et qu'elle commence à jouir de périodes assez courtes d'ailleurs de paix, et notamment avec l'Empire perse. Athènes, dans les années 490-480, avait remporté les grandes victoires sur l'Empire perse qui lui ont permis de jouir auprès de ses alliés d'un statut privilégié. Athènes a pris à ce moment-là la tête d'une coalition, et il se trouve qu'au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, la paix est conclue avec la Perse. Et c'est dans ce moment qu'on peut dire privilégié pour Athènes que Périclès, qui est l'homme politique qui domine la vie politique précisément...
Pendant une quinzaine d'années. Hein.
Pendant une bonne quinzaine d'années, il est réélu chaque année, ce qui était très rare à Athènes, cité de démocratie directe. Et Périclès met en chantier un programme très ambitieux de reconstruction des monuments que les Perses avaient dévastés. Et il invente un nouveau monument qui avait déjà été mis en chantier, qui avait été abandonné en cours de construction, que l'on appelle le pré-Parthénon, mais il l'invente pour qu'il devienne le Parthénon. Et de ce point de vue-là, cette invention d'un monument qui va mobiliser pendant quelques années les énergies et les finances, cette invention évidemment très liée à la personnalité de Périclès, dans les débats politiques de la cité, prend un peu l'aspect d'un enjeu. Les opposants de Périclès vont évidemment dénoncer cette frénésie de construire. Ils vont également voir dans la volonté de Périclès la volonté de transformer les mentalités et la volonté d'implanter une religion nouvelle, une nouvelle forme de religiosité que les tenants de la tradition rejettent. Et c'est par là même que le monument, si l'on peut dire, se construit, nous dirions peut-être dans la douleur, mais en un temps quand même assez rapide, il se construit sur un fond de polémique.
Parce que parmi les adversaires, on trouve un certain Thucydide qui n'est pas l'historien, qui est peut-être un parent, et qui semblait aussi reprocher des détournements d'argent, de la corruption.
Il y a en effet des attaques personnelles qui sont menées contre Périclès, et ces attaques, évidemment, font flèche de tout bois. Et de ce point de vue-là, le monument est extrêmement coûteux. On peut dire que le chantier lui-même est extrêmement onéreux et qu'également la statue chryséléphantine, ce qui veut dire en or et en ivoire, d'Athéna Parthénos, qui est abritée par le Parthénon, est une œuvre de tous les records du point de vue peut-être de l'impression qu'elle était destinée à faire, mais en tout cas du point de vue du financement qui était requis. Et c'est Phidias qui est chargé, le sculpteur que l'on connaît comme étant l'auteur en effet de cet Athéna Parthénos, c'est Phidias qui va être accusé d'avoir détourné les matières précieuses destinées à cette statue. Et les sources sont un peu divergentes pour reconstituer le succès de cette accusation, mais on estime qu'il va devoir quitter Athènes. Il va devoir quitter Athènes sur, en effet, une accusation de détournement de fonds. Quant à Périclès, on l'accuse de corruption et les Athéniens, dans un premier temps, vont peu après, en 443, ostraciser, c'est-à-dire exilé pour une période déterminée, Thucydide d'Athènes. Et de ce point de vue-là, dans un certain laps de temps, l'opposition est jugulée. Mais cela n'empêche pas ces attaques de perdurer. Et on peut encore retrouver dans des pièces d'Aristophane des allusions à ces accusations.
Mais cette statue qui est en ivoire et en or permet aussi que l'on démonte l'or en cas de besoin, quand une nouvelle guerre doit se préparer. Donc cette statue, c'est un trésor.
Oui, c'est en effet une des fonctions, et peut-être la fonction du Parthénon, que d'être le coffre-fort, si l'on peut dire, d'Athènes. C'est un monument bien fermé, avec des grilles. Maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais il y avait des grilles dans les entrecolonnements, des portes évidemment bien closes. Et la statue elle-même est le trésor de la cité. Évidemment, les témoignages sont nombreux, anecdotiques, quelquefois tardifs, comme c'est le cas de Plutarque qui écrit 7 siècles après la construction du Parthénon et l'érection de cette statue d'échelle colossale. Mais ces anecdotes, ces histoires insistent toutes sur la possibilité qui avait été laissée d'enlever le revêtement en or de la statue. Et également, même des anecdotes nous disent qu'il y avait un moyen, une partie au centre du bouclier, qui permettait de défaire l'assemblage de ces plaques de métal précieux. Mais ces anecdotes, ces auteurs plus tardifs insistent aussi sur le fait que Périclès met bien en garde ses concitoyens en leur disant que s'ils ont besoin de récupérer le métal précieux, l'or, ils devront, dans une période de prospérité, le remettre. Ce n'est qu'un emprunt. Il n'est pas question de dépouiller Athéna de son bien.
Il faut bien préciser que on a perdu les traces de cette statue colossale quelque part du côté de Constantinople, je crois.
Alors, cette pauvre statue, si l'on peut dire, a connu les vicissitudes de l'histoire.
Comme tout le monument, d'ailleurs.
Comme tout le monument, mais plus particulièrement elle. Le monument était fait, évidemment, pour l'abriter, mais disons, le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un tyran d'Athènes, elle dépouille Athéna Parthénos de son revêtement en or. Et c'est surtout au moment où la religion chrétienne se répand à Athènes que Athéna perd ses derniers adeptes. Et il y a en effet un texte de Proclos, un philosophe néo-platonicien du début du 5e siècle après Jésus-Christ, qui rapporte sa vision d'une Athéna qui est presque déjà celle de Lord Elgin, une Athéna battue qui a été dépouillée, donc comme le fera Elgin au début du 19e siècle. Et cette pauvre Athéna lui demande asile dans sa maison. L'anecdote est intéressante et ce que l'on sait des restes de la statue qui était en bois, qui avait déjà subi des incendies, c'est qu'elle a été transportée à Constantinople au 5e siècle après Jésus-Christ et qu'ensuite on perd sa trace, mais ce n'était déjà plus la splendide Athéna Parthénos de Phidias.
François Querelle, votre livre renouvelle l'approche que nous avions de la fameuse frise continue du Parthénon. Elle est redessinée par Florence André dans votre livre. Pour vous, à travers cette frise, les dieux qui, depuis longtemps, se sont retirés, nous parlent à nouveau, ils sont là et nous invitent à la regarder et à les entendre.
Oui, il faut voir en effet la frise, si je puis dire, sur le monument. Bon, elle n'y est plus maintenant. Tout est dans des musées, du musée de l'Acropole jusqu'au British Museum, si l'on peut dire.
Plus avec
des
le
fragments,
Louvre.
Notamment au Louvre, une plaque, la plaque des Ergastines. Et cette frise, elle était en hauteur, dans la pénombre, sous la colonnade. On la voyait tout à fait différemment de la vision que nous en avons maintenant dans les musées à hauteur d'homme. Cette frise, et c'est le dessin qui nous permet de nous en rendre compte, est une progression. On a souvent discuté pour savoir si c'était une procession, mais c'est une progression vers une scène mystérieuse qui est au-dessus de la porte d'entrée, à l'emplacement de la façade principale, et qui a suscité beaucoup d'exégèse. Mais il faut voir que sur le monument, c'est sur cette frise que se trouvent les hommes. Les frontons du Parthénon, les deux extrémités, petits côtés du Parthénon, représentent des dieux. La frise extérieure, qui est divisée en carrés, ce sont les métopes. Cette frise extérieure représente les légendes d'Athènes, les héros, la prise de Troie. Et c'est uniquement à l'abri de la colonnade, donc dans la pénombre, en hauteur, à 12 mètres de haut, que la frise continue représente des cavaliers, représente des Athéniens, représente des jeunes filles d'Athènes qui s'avancent de part et d'autre sur les longs côtés du monument vers les héros et les dieux d'Athènes qui les accueillent et qui encadrent une scène dont on pense qu'elle représente, qu'elle évoque en tout cas, le rite de remise à la déesse de sa tunique, son péplos, qui était brodé par les jeunes filles d'Athènes et qui, tous les 4 ans, au terme de la procession qui avait lieu lors de la fête des grandes Panathénées, donc tous les 4 ans, la déesse recevait son nouveau vêtement somptueux qui était l'offrande du peuple d'Athènes. Et donc cette frise a une signification particulière. Elle est, si l'on peut dire, une image médiatrice entre les Athéniens et leurs dieux.
Il y a un détail amusant dans votre livre, c'est l'impression que vous fait cette frise en vous rappelant le texte de Marcel Proust, La recherche du temps perdu, qui tout à coup arrive là pour restituer quelque chose du sentiment que vous avez quand vous abordez cette frise.
Oui, en effet, dans La recherche du temps perdu, il y a un passage qui est étonnant parce qu'il témoigne de la vision de cette frise qui est transposé, si l'on peut dire, dans le grand hôtel de Balbec. C'est là que Proust évoque la fuite éperdue des, il nous dit, les jeunes filles qui vont dans les grands couloirs de cet hôtel début XXe siècle, qui vont dans les grands couloirs et jusqu'à leur petite chambre sous les toits. Et il évoque à ce moment-là la cavalcade des cavaliers de la frise qui se détache dans ce passage comme sur la mer. Or, il est évident que la frise du Parthénon, quand on la voit, est une frise remplie. Le champ du relief est empli, et là encore le dessin permet d'en avoir une vision plus détachée, mais les personnages sont extrêmement nombreux, emplissent complètement. Cependant, cette frise débouche sur un espace, donne l'impression d'un espace, et l'image de la fuite éperdue des cavaliers, par le mouvement qu'elle imprime au regard, permet, me semble-t-il, enfin justifie en tout cas, donne à la comparaison de Proust une justesse tout à fait claire, évidente.
Vous parlez de mouvement du regard. Quand les morceaux de cette frise sont dans les musées, tout est pétrifié. Donc, on perd complètement ce sentiment de mouvement qui est restitué notamment par cette cavalcade que vous venez d'évoquer.
Oui, on le perd en partie. Et il faut bien dire que les conditions de visite d'un musée, évidemment, sont idéales pour voir les œuvres, pour s'en approcher. Mais on oublie à ce moment-là que cette frise n'est qu'un élément d'un ensemble. Et que cet ensemble, évidemment, était un monument qui lui-même entretenait des relations avec d'autres monuments. Donc nous voyons des détails et nous pouvons admirer en effet des réussites esthétiques du sculpteur, des sculpteurs qui ont placé dans un champ très faible, il y a seulement 4,5 cm de profondeur de relief, qui arrivent à superposer 4 chevaux qui se doublent, si l'on peut dire.
Alors pourquoi dans cette frise, cette place privilégiée réservée aux cavaliers, et en plus à des cavaliers qui sont pour la plupart du temps nus?
Alors, les historiens se sont posés en effet la question. Est-ce que Périclès aurait voulu flatter, nous dirions, ses électeurs en les représentant? C'est une interprétation qui est de temps en temps défendue. Est-ce qu'il a voulu, de ce point de vue-là, s'attirer les suffrages de cette classe des cavaliers qui était assez riche pour appartenir à la cavalerie d'Athènes et pas simplement à la piétaille, si l'on peut dire, des hoplites? En fait, c'est peut-être une explication réductrice. Ce qui est important est de voir que ces cavaliers, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse d'Athènes. C'est évidemment la fine fleur de cette jeunesse. Et ces cavaliers introduisent en fait, introduisent la procession, le cortège, quel que soit le réalisme de la scène. Et on verra aussi un peu plus loin des gens plus mûrs, plus âgés. Il y a des magistrats. Il y a enfin celles qui sont indispensables à la procession parce que c'est une cérémonie qui est la remise de péplos, qui est une offrande à la déesse. Et ce sont donc des jeunes filles qui ont la place privilégiée sur la façade, en tête de la procession.
François Querelle, vous parlez de nouvelles religions qui arrivent là, voulues par Périclès. Est-ce qu'on peut parler d'une religion à mystère?
Alors, il y a en effet pour nous une opposition a priori entre la religion des philosophes, et pour nous, Périclès est le disciple des philosophes présocratiques, et la religion qui est la religion à mystère, une religion révélée, une religion qui suppose des rites que nous ne connaissons pas précisément. Mais en fait, pour les Athéniens, les mystères étaient beaucoup moins mystérieux qu'ils ne sont pour nous, si je puis dire. Les Athéniens étaient initiés au culte de Déméter et Corée qui était célébré à Eleusis. Ils avaient suivi une initiation, ils étaient habitués à cette approche du divin. Et il y a dans le jeu entre une cérémonie visible dans la procession et dans une scène centrale vers laquelle converge la procession au-delà des dieux, une cérémonie qui nous paraît très quotidienne, où on plie une pièce d'étoffe, il y a dans cette quotidienneté, finalement, du geste religieux, une vérité des croyances athéniennes. Les Athéniens croient au quotidien, si je puis dire, et ils croient au quotidien, tout en sachant bien évidemment que le culte d'Athéna n'est pas un culte à mystère, à proprement parler, pour nous, si nous voulons faire de l'histoire des religions, mais c'est un culte qui s'inscrit dans un ensemble. Et dans un ensemble où il serait totalement artificiel de dire il y a d'un côté la religion des philosophes, il y a de l'autre la religion des cultes à mystère. C'est un continuum, si je puis dire, et de ce point de vue-là, il faut abandonner un petit peu nos catégories d'histoire des religions ou d'historiens très rationalistes pour se projeter et pour retrouver, de ce point de vue-là, une unité de la vision.
Mais le mystère semble quand même présent à travers ces espaces, ou cet espace interdit, hein, et qui existe au cœur même de ce monument.
Oui, au cœur du monument, et là encore, il y a eu, sur le Parthénon, il y a peut-être presque 2000 titres d'articles, évidemment, qui examinent tel ou tel aspect, et régulièrement, notamment d'ailleurs aux États-Unis. Il y a beaucoup de spécialistes qui s'interrogent sur le nom qu'avait cette salle à quatre colonnes, qui apparemment ne communiquait pas avec la cella, c'est-à-dire la salle où était exposée la statue chryséléphantine haute de 12 mètres de haut. Et cette salle à quatre colonnes servait-elle à entreposer les ustensiles nécessaires au culte d'Athéna? À quoi servait-elle? C'est en effet une question récurrente. On constate en tout cas, dans le plan du Parthénon, cette particularité architecturale que l'on peut retrouver précisément dans des temples de cultes à mystère, où il y a une salle qui est séparée de la salle principale.
Et donc la statue d'Athéna, on pouvait l'entreapercevoir lorsque les portes sont entrouvertes. Donc il y avait un jeu quand même pour entretenir ce mystère. Mais on dit aussi que, vous l'avez rappelé, cette statue avait un bouclier sculpté, notamment avec la guerre des Amazones. Est-ce que c'est une allusion à la guerre avec les Perses?
Alors, on a en effet, et c'est tout à fait justifié, mis en rapport les conquêtes, si l'on peut dire plutôt la victoire d'Athènes, avec la victoire, et à Athènes, c'était Thésée qui était le vainqueur des Amazones. C'était Thésée, le roi mythique, qui avait libéré Athènes d'une invasion des Amazones. Et les Amazones venues d'Asie sont évidemment très souvent assimilées à ce pouvoir qui émanait, cette volonté de conquête de l'Empire perse.
Voilà, c'est un aspect important de votre livre, François Querelle, que le récit aussi des vicissitudes rencontrées par Athènes tout au long de son histoire et par ce monument symbole qui est, vous l'avez rappelé, un petit peu agressé, démantelé, notamment avec ce personnage Engine qui a scié carrément des fragments pour les amener vers le British Museum. Donc, ce que nous voyons survit et continue d'être regardé et d'être interrogé. François Querelle, Le Parthénon, un monument dans l'histoire, chez Bartila, sorti début septembre. Sur le bateau d'Ulysse, une émission proposée par Gérard Gromer. Aujourd'hui, un monument dans l'histoire avec François Querelle, prise de son Xavier Lévesque, réalisation Sylvie Migaud.